Chapitre 36. Méprise. Salem, Massachusetts. Jeudi 26 août 2010. Je rejoignis Gaal Wood à Salem devant la maison de Benjamin Bradbird. Que se passe-t-il, sergent?
L'écrivain, croyez-moi, je ne vous aurais pas dérangé pour rien. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous appeler et de vous dire que quelque chose ne collait pas.
Parlez librement, sergent. Qu'est-ce qui vous turlupine?
Tout fonctionnait dans notre théorie. Bradbird qui vole le pull d'Eric Donovan et l'abandonne pour faire croire à une preuve. Pareil pour le message dans la poche d'Alaska qui aurait pu être placé par lui. Mais ces débris de phare alors, cela pouvait-il être vraiment une coïncidence comme l'a dit Lansdane? Je suis finalement retourné au cabinet de Bradbird. J'ai fouillé toutes ses archives. Il conservait tout un tas de reliques à sa gloire. Je pense qu'il était du genre narcissique. Et regardez ce que j'ai trouvé.
Gaal Wood brandit un article tiré du Kenahan Standard, un journal local du Connecticut daté du 3 avril 1999. Soirée de l'Association des médecins de Kenahan. Psychiatrie par le menu. En ce vendredi 2 avril 1999, l'Association des médecins de Kenahan célébrait son 20e anniversaire. Ce fut l'occasion d'un dîner de gala à l'hôtel de ville. L'invité d'honneur était le docteur Benjamin Bradbird, psychiatre à Salem, Massachusetts, qui a prononcé un discours sur l'importance de la psychothérapie en milieu carcéral. Gaal Wood me dit
« Le soir où Alaska a été tué, Bradbird donnait un discours à 3 heures de route de Mount Pleasant. On s'est trompé. Il ne peut pas être le meurtrier. »
Pourquoi s'est-il suicidé, alors?
Pour éviter la prison pour le meurtre d'Eleanor.
Mais Alaska et Eleanor ont été tués avec la même arme, fis-je remarquer. Quel est donc le lien entre les deux meurtres?
C'est la question que je me pose, l'écrivain. Je crois que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C'est pour cela que je voulais fouiller à nouveau la maison de Bradbird avec vous. Avons-nous raté quelque chose?
Nous nous mîmes au travail, en commençant par le bureau de Bradbird.
Il avait l'air d'être collectionneur de souvenirs inutiles, me dit Gaal Wood.
Nous passâmes en revue des dizaines de documents sans intérêt. Bradbird avait effectivement la manie de tout conserver. Nous pûmes retracer une partie de sa vie sur une vingtaine d'années au gré de factures, de cartes de membres de fitness ou de vidéoclubs, de vieilles photos, de billets d'avion. Certains étaient parfois agrémentés de notes. Nous n'y avions pas vraiment prêté attention lors de la perquisition initiale, car il ne s'agissait que de vieux souvenirs. C'est alors que je découvris un carton d'invitation à un mariage. Mariage Stephen Hart et Bella Swede, 30 août 1999, Hôtel Plaza, Boston.
Sergent, regardez la date! Benjamin Bradbird était invité à un mariage le soir de l'assassinat d'Eleanor Lowell. Y était-il vraiment?
On va vite le savoir.
Gaal Wood trouva sans problème le contact de Stephen Hart. Malgré l'heure tardive, il lui téléphona. Stephen Hart nous raconta avoir divorcé de Bella Swede 3 ans auparavant, mais confirma que Benjamin Bradbird figurait parmi les convives.
Est-ce qu'il est parti tard?
Demanda Gaal Wood.
Dans mon souvenir, il a dormi à l'hôtel. Est-ce en lien avec sa mort? Oh, quel événement tragique! Est-ce que l'on en sait plus sur les raisons qui l'ont poussé à l'acte?
Gaal Wood n'écoutait plus Stephen Hart. Il me regardait avec un mélange d'incompréhension et de détermination. Depuis le début de cette enquête, quelqu'un avait réussi à nous balader.
Considérons que Bradbird a été piégé et qu'Eric Donovan aussi. Le meurtrier est connecté à Benjamin, Eric Donovan, Eleanor et Alaska, dit Gaal Wood.
Et Kaczynski, ajoutai-je. Dans le carton de souvenirs, en m'emparant du faire-part de mariage, j'avais attrapé la photo qui se trouvait en dessous. C'est Gaal Wood qui la remarqua et qui s'en saisit. C'était une photo d'un mariage, celui de Benjamin Bradbird.
La mariée,
s'écria Gaal Wood.
La mariée.
Je regardai le cliché et restai bouche bée. Dans l'heure qui suivit, Gal, Wood et moi débarquions dans le cabinet d'avocat de Patricia Whitsmith, accompagné par une délégation de la police de Boston qui procéda à son arrestation. En nous voyant entrer dans son bureau, elle comprit aussitôt.